essayer d'avancer aujourd'hui dans notre propos. Je vais reprendre les choses concernant. La constitution du désir chez l'obsessionnel et son rapport à l'angoisse. Et pour ce faire, je vais revenir à une sorte de tableau, de matrice, de tableau à double entrée que je vous ai donné lors des toutes premières leçons du séminaire de cette année, sous la forme reproduite ici, encadrée par le trait blanc et inscrit en rose. Ce tableau, alors, avait l'intention de marquer la sorte de décalage, de désétagement que représentent les trois termes auxquels Freud est arrivé, qu'il a inscrit dans le titre de son article Inhibition, symptômes, angoisse. Autour de ces trois termes, je ponctuais quelque chose que nous pouvons désigner comme les moments, comme un certain nombre de moments définissables dans les termes qui sont ici inscrits dans ce tableau, qui ont pour caractère qu'à se référer pour chaque terme à sa tête de colonne en haut, à sa tête rangée à gauche. On y trouve une corrélation qui peut à l'épreuve se proposer à l'interrogation comme propre à être infirmé ou confirmé dans sa fonction structurale. Encore ces termes vous étaient-ils à ce moment livrés dans une certaine incomplétude comportant donc quelques suspensions d'énigmes, nommément la distinction par exemple de l'émotion et de l'émoi pouvait être, malgré les références étymologiques que j'ai fait alors, pouvait être tout de même pour vous matière à une interrogation qui ne vous était peut-être pas entièrement possible par vos propres moyens de résoudre. Assurément, ce que j'apporterai aujourd'hui me paraît de nature à vous y apporter des précisions qui, je n'en doute pas, pour la plupart, sinon pour tous, ne peuvent être que nouvelles, voire inattendues. Et en particulier, pour commencer par cet émoi, dont l'origine bien distincte de celle du terme d'émotion n'est pas motion hors, motion, mouvement hors du champ, par exemple, organisé, adapté de l'action motrice, comme assurément l'émotion étymologiquement, je ne vous dis pas que ce soit là quelque chose à quoi nous puissions entièrement nous fier, comme l'émotion étymologiquement l'indique et s'y réfère. L'émoi est à chercher pour le comprendre bien ailleurs. Et l'étymologie, c'était l'indication que je vous en avais donnée, l'étymologie dans un es-meillé, le meillé se référant à une racine germanique, au meugen, au magan, du racine germanique tout à fait primitive, donne l'indication de quelque chose qui pose hors de quoi, le principe du pouvoir. Énigme donc autour dire quelque chose qui n'est pas sans rapport avec la puissance. Et je dirais que peut-être même apprendre la forme qu'il a pris en français, c'est de quelque chose du type de l'ordre, l'ordre moi, l'ordre soi, que dans une approche qui, si pour se référer presque au calembour, n'a pas moins d'importance, qu'il nous faut diriger notre esprit pour bien voir, enfin entrevoir tout au moins la direction dans laquelle nous allons aujourd'hui aller. Pour y aller tout de suite au vif, c'est parce que l'obsessionnel l'illustre par sa phénoménologie immédiatement et d'une façon très sensible. Je dirais qu'au point où nous en sommes, je puis vous dire tout crûment, tout à trac, que les mois dont il s'agit, n'est rien d'autre. Au moins dans les corrélations que nous tentons d'explorer, de préciser, de nouer tout près aujourd'hui, à savoir les rapports du désir et de l'angoisse, les mois dans cette corrélation n'est rien d'autre que le petit A lui-même. Dans la conjoncture de l'angoisse, avec son étrange ambiguïté que je vous ai appris à serrer de plus près tout au long de ce discours de cette année, cette ambiguïté qui nous permet à nous, après cette élaboration, de formuler que ce qui frappe dans sa phénoménologie, que nous pouvons en retenir, et ce sur quoi les auteurs d'ailleurs font glissement et erreur, et sur quoi nous introduisons une distinction, ce caractère d'être sans cause. Mais non pas sans objet. C'est là la distinction vers laquelle, par mes efforts pour la situer, je vous ai dirigé. Non seulement elle n'est pas sans objet, mais elle désigne très probablement l'objet, si je puis dire, le plus profond, l'objet dernier, la chose. C'est en ce sens, vous ai-je appris à dire, qu'elle est ce qui ne trompe pas. Ce sans cause, par contre, si évident dans son phénomène, quelque chose qui s'éclaire mieux à notre vue de la façon où j'ai tenté de vous situer. Où commence la notion de la cause? Cette référence à l'émoi est dès lors ce par quoi l'angoisse tout en y étant liée n'en dépend pas, mais au contraire le détermine, cet émoi. L'angoisse se trouve suspendue entre la forme, si l'on peut dire, antérieure du rapport à la cause. Le qu'y a-t-il qui va se formuler comme cause, l'embarras, et quelque chose qui, cette cause, ne peut pas la tenir, puisque primitivement, cette cause, c'est l'angoisse qui littéralement la produit. Quelque chose se produit. Illustre d'une façon abjecte et d'autant plus saisissante ce que j'ai mis à l'origine de mon explication de l'obsessionnel dans la confrontation de l'homme au loup à son rêve répétitif majeur, à la confrontation angoissée à quelque chose qui paraît comme une monstration de sa réalité dernière, cette chose qui se produit, qui jamais pour lui ne vient à la conscience, mais ne peut être en quelque sorte que reconstruit comme un chaînon de toute la détermination ultérieure. Et moi, anal, pour l'appeler par son nom et son produit, voilà, au niveau de l'obsessionnel, la forme première où intervient l'émergence de l'objet petit a qui est à l'origine de tout ce qui va sans déroulé sous le mode de l'effet. C'est parce que ici l'objet petit a se trouve donné dans un moment originel où il joue une certaine fonction sur laquelle nous allons essayer maintenant de nous arrêter pour en préciser bien la valeur, l'incidence, la portée, les coordonnées premières, celles d'avant que d'autres s'agissent. C'est parce que ce petit a est là dans sa production originelle qu'il peut ensuite fonctionner dans la dialectique du désir qui est celle de l'obsessionnel. Coordonnez donc au moment de son apparition, cet émoi, au dévoilement traumatique où l'angoisse se révèle, qu'elle est bien ce qui ne trompe pas, moment où le champ de l'autre, si l'on peut dire, se fend et s'ouvre sur son fond. Quel est-il, ce petit a? Quelle est sa fonction par rapport au sujet? Si nous pouvons ici la saisir en quelque sorte d'une façon pure par rapport à cette question, c'est justement dans la mesure où dans cette confrontation radicale, traumatique, le sujet cède à la situation. Mais qu'est-ce que veut dire à ce niveau, à ce moment, ce cède? Comment faut-il l'entendre? Ce n'est ni qu'il vacille, ni qu'il fléchisse. Vous le savez bien. Rappelez-vous l'attitude schématisée par la fascination de ce sujet du rêve de l'homme au loup devant la fenêtre ouverte sur l'arbre couvert de loup. Dans une situation le figement suspend devant nos yeux le caractère primitivement inarticulable, et dont pourtant il restera à jamais marqué, ce qui s'est produit, c'est quelque chose qui donne son sens vrai à ce cède du sujet, c'est littéralement une cession. Ce caractère d'objet cessible est un des caractères du petit A. Tellement important que je vous demande de bien vouloir me suivre en une brève revue pour voir qu'il est un caractère qui marque toutes les formes que nous avons énuméré du petit A. Ici, nous apparaît que les points de fixation de la libido sont toujours autour de quelqu'un de ces moments que la nature offre à cette structure éventuelle de cession subjective. Le premier moment de l'angoisse, celui que peu à peu a approché l'expérience analytique, disons au niveau autour du trauma de la naissance, dès lors, à l'approche de cette remarque, nous permet de l'accentuer comme quelque chose de plus précis, de plus précisément articulable que ce qui a d'abord été grossièrement approché sous la forme de la frustration. Et de nous interroger et de nous apercevoir dès que nous nous interrogeons, que le moment le plus décisif dans cette angoisse dont il s'agit, angoisse du sevrage, ce n'est pas tant qu'à l'occasion ce sein manque à son besoin, que plutôt ce petit enfant cède ce sein auquel, quand il est appendu, c'est bien comme à une part de lui-même. N'oublions jamais ce que représenté, je ne suis pas le seul à l'avoir aperçu, je me réfère ici à Bergler nommément. Le sein fait partie de l'individu au nourrissage. Il ne se trouve, comme je vous l'ai dit en une expression imagée, que plaqué sur la mer. Que ce sein, qu'il puisse en quelque sorte le rendre, le lâcher, c'est là où se produit ce moment de surprise le plus primitif, quelquefois vraiment saisissable dans l'expression du nouveau-né. Celui où pour la première fois passe le reflet de quelque chose, rapport avec abandon de cet organe qui est bien plus encore le sujet lui-même de quelque chose qui soit déjà un objet, quelque chose qui donne son support, sa racine, enfin, ce qui, dans un autre registre, a été perçu, appelé, quant au sujet, comme déréliction. Mais aussi bien pour nous, comme pour tous les autres objets, petit a, avons-nous d'autres contrôles manifestes de cet accent que je mets, de la possibilité du remplacement de l'objet naturel? Nous avons dans la possibilité du remplacement de l'objet naturel par un objet mécanique, si je puis m'exprimer ainsi, ce que je désigne ici, c'est le remplacement possible d'abord de cet objet par, mon Dieu, tout autre objet peut se rencontrer une autre partenaire, la nourrice qui faisait tellement de questions au premier tenant de l'éducation naturelle, au thème rousseauiste de la nourriture par la mer, mais au-delà, c'est quelque chose qui, mon Dieu, n'a pas toujours existé, du moins on l'imagine, mais que le progrès de la culture a fabriqué, a constitué. Biberon, c'est-à-dire la possibilité, ce petit tas, je puis dire, de le mettre en réserve, en stock, circulation dans le commerce, ou aussi bien de l'isoler en tube stérile. Ce caractère, donc, de cession de l'objet se traduit par l'apparition dans la chaîne, la fonction de la fabrication humaine, l'apparition d'objets cessibles qui en sont, qui en peuvent être les équivalents. Et si ce rappel n'est pas ici hors de propos, c'est parce que bien, j'entends ici directement y rattacher la fonction sur laquelle j'ai mis dès longtemps l'accent, celle de l'objet transitionnel, pour prendre le terme propre ou non, mais désormais consacré, dans l'a épinglé son créateur, celui qui l'a aperçu, à savoir Winnicott. Cet objet qu'il appelle transitionnel. En effet, ici, à ce niveau, on voit bien ce qui constitue dans cette fonction d'objet que j'appelle objet cessible. Il est un petit bout arraché à quelque chose, à un lent, le plus souvent. Et l'on voit bien ce dont il s'agit quant au rapport du sujet, au support qu'il trouve dans cet objet. Il ne s'y dissout pas, il s'y conforte. Il s'y conforte dans sa fonction de sujet tout à fait originelle, celle de cette position de chute, si je puis dire, par rapport à la confrontation signifiante. Il n'y a pas là un vestissement de petit a. Il y a, si je puis dire, un vestiture. Il est là le suppléant du sujet. Et suppléant en position, en quelque sorte, de le précéder, il est ce rapport, petit a, sur quelque chose qui, secondairement, réapparaît après cette disparition. Ce sujet mythique, primitif, qui est posé au début comme ayant à se constituer dans la confrontation à l'autre, mais que nous ne saisissons jamais pour cause, c'est parce que le petit a l'a précédé et que c'est, en quelque sorte, marque pratiquer lui-même cette primitive substitution qu'il a à réémerger au-delà. Cette fonction de l'objet sessile comme morceau séparable et véhiculant en quelque sorte primitivement quelque chose de l'identité du corps qui antécède sur le corps lui-même quant à la constitution du sujet. Puisque j'ai parlé de manifestation dans l'histoire de la production humaine qui peut avoir pour nous valeur en quelque sorte de confirmation, de révélation, dans ce sens il ne m'est pas possible de ne pas évoquer à l'instant au terme extrême de cette évolution historique, ou plus exactement de cette manifestation dans l'histoire, les problèmes que vont nous poser, je dis, jusqu'au plus radical de ce qu'on pourrait appeler l'essentialité du sujet, l'extension imminente, probable, déjà engagée, plus que je dirais enfin, la conscience commune et même celle des praticiens comme nous qui pouvons en être avertis, les questions que vont poser les faits de greffe d'organes. Prennent cette allure, à la fois assurément surprenante, mais bien fait pour suspendre l'esprit autour de je ne sais quelle question, jusqu'où il faut-il, jusqu'où allons-nous y consentir. Jusqu'où ira le fait qui s'ouvre que ce que j'appellerais la mine, la ressource, le principal, de possibilité va peut-être se trouver bientôt dans l'entretien artificiel de certains sujets dans un état dont nous ne pourrons, dont nous ne saurons plus dire s'il est la vie, s'il est la mort, puisque, comme vous le savez, les moyens de Langström permettent de faire subsister dans un état vivant des tissus, des sujets dont tout indique que le fonctionnement de leur système nerveux central ne saurait revenir à restitution. Onde cérébrale à plat, midriase, absence sans retour des réflexes. De quoi s'agit-il? Que faisons-nous quand c'est un sujet dans cet état que nous empruntons un organe? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a là une émergence dans le réel de quelque chose de nature à réveiller en des termes tout à fait nouveaux question de l'essentialité de la personne et de ce à quoi elle s'attache, de solliciter ces autorités doctrinales qui peuvent à l'occasion donner matière à juridisme, de les solliciter, de voir jusqu'où peut aller dans le pratique cette fois la question de savoir si le sujet est une âme ou bien un corps. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui dans cette voie, puisque aussi bien ces autorités doctrinales semblent déjà avoir ébauché des réponses bien singulières, mais qu'il conviendrait de les étudier très près pour voir leur cohérence par rapport à certaines positions prises dès longtemps et où l'on peut dire, par exemple, que se distingue radicalement sur le plan même de la relation, de l'identification de la personne avec quelque chose d'immortel qui s'appellerait l'âme, une doctrine qui articule dans ses principes ce qui est le plus contraire à la tradition platonicienne, à savoir qu'il ne saurait y avoir d'autre résurrection que celle du corps. Et aussi bien, le domaine ici évoqué n'est pas si lié à cette avancée industrieuse dans des possibilités singulières qu'il n'ait été depuis longtemps évoqué par la fabulation visionnaire. Ici, je n'ai qu'à vous renvoyer une fois de plus à la fonction unheimlich des yeux, entend manipuler, faire passer un vivant à son automate, personnage incarné par Hoffmann et mis au centre par Freud de son article sur l'Unheimlich de Coppelius, de celui qui creuse les orbites, qui va chercher jusqu'à leurs racines, ce qui est l'objet quelque part. Capital essentiel à se présenter comme l'au-delà le plus angoissant du désir qu'il constitue l'œil lui-même. J'en ai dit assez au passage sur la même fonction de la voix et ce en quoi elle nous apparaît, nous apparaîtra sans doute avec tellement de perfectionnement technique toujours plus, pouvoir aussi être de l'ordre de ces objets sensibles, de ces objets qui peuvent être rangés sur les rayons d'une bibliothèque sous forme de disques ou de bandes, et dont, à l'occasion, il n'est pas forcé d'évoquer l'épisode ancien ou neuf, de savoir quel rapport singulier il peut avoir avec le surgissement dans telle conjoncture de l'angoisse. Simplement, ajoutons-y, à proprement parler, ce qui, au moment où elle émerge dans une ère de culture, où elle surgit pour la première fois, la possibilité aussi de l'image, je dis de l'image spéculaire, de l'image du corps, à l'état détaché, à l'état sensible sous forme de photographie, de dessin même, et du heurt, de la répugnance que ceci provoque dans la sensibilité de ceux qui peuvent le voir surgir tout soudain, sous cette forme à la fois indéfiniment multipliable et possible à répandre partout, la répugnance, voire l'horreur, que dans des zones de la culture qu'il n'y a aucune raison que nous appelions primitives, l'apparition de cette possibilité de faire surgir avec le refus de laisser prendre cette image dont Dieu sait, c'est le cas de le dire ensuite, où elle pourra aller. C'est dans cette fonction, d'objet sessible, et celle, en somme, la plus naturelle, et dont le naturel ne vient à pouvoir s'expliquer comme ayant pris cette fonction, que l'objet anal intervient dans la fonction du désir. Que là, c'est là que nous avons à saisir en quoi il intervient et à mettre à l'épreuve, ne pas oublier le guide que nous donne notre formule, que cet objet est donc non pas fin, but du désir, mais sa cause. Cause du désir en tant qu'il est quelque chose lui-même de non effectif. Que c'est cette sorte d'effet fondé, constitué sur la fonction du manque qui n'apparaît comme effet que là où, en effet, se situe seule la notion de cause, c'est-à-dire au niveau de la chaîne signifiante, où ce désir est ce qui lui donne cette sorte de cohérence où le sujet se constitue essentiellement comme métonymique. Mais ce désir, au niveau de la constitution du sujet, comment allons-nous le qualifier ici, là où nous le saisissons dans son incidence, dans la constitution du sujet? Ce n'est pas le fait contingent, la facticité de l'éducation de la propreté qui lui donne cette fonction de retenir, qui au désir anal donne sa structure fondamentale. C'est une forme plus générale qu'il s'agit ici et qu'il s'agit pour nous de saisir dans ce désir de retenir. Dans son rapport polaire à l'angoisse, le désir est à situer là où je vous l'ai mis, en correspondance avec cette matrice ancienne, au niveau de l'inhibition. Pourquoi le désir, nous le savons, peut prendre cette fonction de ce qu'on appelle une défense. Mais allons pas à pas pour voir comment ceci éventuellement se produit. Qu'est-ce que l'inhibition ? Pour nous, dans notre expérience, il ne suffit pas que nous l'ayons, cette expérience, et que nous la manipulions comme telle, pour qu'encore nous en ayons correctement articulé la fonction, et c'est ce que nous allons essayer de faire, l'inhibition, qu'est-ce sinon ? L'introduction dans une fonction, peut-être n'importe laquelle, dans son article, Freud prend pour support, par exemple, la fonction motrice. L'introduction de quoi ? D'un autre désir que celui que la fonction satisfait naturel. Cela, après tout, nous le savons. Et je ne prétends rien ici vous découvrir de nouveau. Mais je crois qu'à l'articuler ainsi, j'introduis une formulation nouvelle, donc sans cette formulation même, nous échappe les déductions qui en découlent. Car ce lieu de l'inhibition, où nous apprenons à reconnaître, dans, je souligne, les corrélations qu'indique cette matrice, le lieu à proprement parler où le désir s'exerce, et où nous saisissons une des racines de ce que l'analyse désigne comme pour faire Dreymoon. Cette occultation, si je puis dire, structurale du désir derrière l'inhibition, c'est quelque chose qui nous fait dire communément que si monsieur un tel a une crampe d'écrivain, c'est parce qu'il érotise la fonction de sa main. Je pense qu'ici tout le monde se retrouve. C'est cela qui nous sollicite de faire jouer, d'apprécier en cette situation, au même lieu, ces trois termes, dont les deux premiers, je les ai déjà nommés, inhibition au désir, le troisième étant l'acte. Car quand il s'agit pour nous de définir ce qu'est l'acte, seul corrélatif possible, polaire, au lieu de l'angoisse, nous ne pouvons le faire qu'à le situer là où il est, au lieu de l'inhibition dans cette matrice. L'acte ne saurait pour nous, ni pour personne, se définir comme quelque chose seulement se passe, si je puis dire, dans le champ réel, au sens où le définit la motricité. L'effet moteur, dirait-on. Mais quelque chose qui, dans ce champ, et sans doute sous la forme motrice, à l'occasion, mais pas seulement, quelque participation, qui puisse y rester toujours d'un effet moteur, qui se traduit dans ce champ, champ du réel, où s'exerce la réponse motrice, qui se traduit d'une façon telle, que s'y traduit un autre champ qui n'est pas seulement celui de la stimulation sensorielle, par exemple, comme on l'articule à nous considérer que l'arc réflexe, qui n'est pas non plus à articuler comme réalisation du sujet. Ceci est la conception du mythe personnaliste. En tant que justement il élude dans ce champ de la réalisation du sujet la priorité du petit sas qui inaugure et dès lors conserve le privilège de ce champ de la réalisation du sujet. Sujet comme tel ne se réalise que dans des objets qui sont de la même série, qui sont du même lieu, disons dans cette matrice, que la fonction du petit A qui sont toujours objets sessibles. C'est ce que depuis longtemps on appelle les œuvres. Avec tout le sens qu'a ce terme jusque dans le champ de la théologie morale. Alors, qu'est-ce qui passe dans l'acte de cet autre champ dont je parle et dont l'incidence, l'instance, l'insistance dans le réel, et ce qui connote une action comme acte. Comment allons-nous le définir? Est-ce simplement cette relation polaire, et en quelque sorte ce qui s'y passe, de surmontement de l'angoisse, si je puis m'exprimer ainsi? Disons, dans des formules qui ne peuvent qu'approcher, après tout ce qu'est un acte, que nous parlons d'acte. Quand une action a le caractère disons, d'une manifestation signifiante où s'inscrit ce qu'on pourrait appeler l'écart du désir. Un acte est une action, disons, en tant que s'y manifeste le désir même qui aurait été fait pour l'inhiber. De la notion, de la fonction de l'acte dans son rapport à l'inhibition, c'est là et là seulement que peut se trouver justifié qu'on appelle acte des choses qui principe ont l'air si peu de se rapporter à ce qu'on peut appeler au sens plein éthique du mot un acte, que l'acte sexuel d'un côté ou d'un autre, l'acte testamentaire. Eh bien, c'est ici, dans ce rapport du petit acte à la constitution d'un dit, et ce qu'il nous révèle du rapport du désir à la fonction naturelle, que notre obsessionnel a pour nous sa valeur la plus exemplaire. Chez lui, tout le temps, nous touchons du doigt ce caractère dont seulement l'habitude peut effacer pour nous l'aspect énigmatique. Que chez lui, les désirs se manifestent toujours dans cette dimension que j'ai été jusqu'à appeler tout à l'heure, anticipant sans doute un peu, fonction de défense. Comment concevoir ceci seulement, à partir de quoi cette incidence du désir dans l'inhibition mérite d'être appelée défense? Dans cela, vous ai-je dit que c'est d'une façon anticipée que j'ai pu parler de défense comme fonction essentielle de l'incidence du désir. C'est uniquement en tant que cet effet du désir, ainsi signalé par l'inhibition, peut s'introduire sous une action déjà prise dans l'induction d'un autre désir. C'est aussi là pour nous, fait d'expérience commune, et après tout, sans parler du fait que ça a tout le temps à faire à quelque chose de cet ordre, observons que pour ne pas quitter notre obsessionnel, c'est déjà là la position du désir anal, ainsi défini, par ce désir de retenir, centré autour d'un objet primordial auquel il va donner sa valeur, c'est déjà là que se situe ce désir situé comme anal. Il n'a pour nous de sens que dans l'économie libido, c'est-à-dire dans ses liaisons avec le désir sexuel. C'est là qu'il convient de rappeler que l'inter urina et species nascimur de saint Augustin. Ce n'est pas là tellement l'important que nous y naissions entre l'urine et les fesses. Du moins pour nous, analystes. C'est qu'entre l'urine et les fesses, c'est là que nous faisons l'amour. Nous pissons avant et nous chions après. Ou inversement. Or, c'est là une décorrélation de plus et auquel nous apportons trop peu d'attention quant à une phénoménologie qu'après tout nous laissons venir dans l'analyse. C'est pourquoi il faut avoir l'oreille bien tendue et repérer dans les cas où cela sort, le rapport qui lie à l'acte sexuel la fomentation, si je puis dire, de ce qui apparaîtra, bien entendu, aussi inaperçu que peut-être inévoqué dans l'histoire de l'homme au loup. Son petit cadeau primitif, la fomentation habituelle dans l'acte sexuel de quelque chose qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance, mais qui, comme indicatif de la relation dont je parle, la prend, la fomentation de la petite merde, dont l'évacuation consécutive n'a sans doute pas la même signification chez tous les sujets, qu'ils soient par exemple sur le versant obsessionnel ou sur un autre. Alors, reprenons notre chemin au point où je vous y ai laissé, c'est à savoir. Qu'en est-il du point où je vous dirige maintenant concernant cette sous-jacente du désir au désir? Et comment concevoir ici ce qui, dans ce chemin, nous mène vers l'élucidation de son sens? Nous y mène, j'entends, pas simplement dans son fait, mais dans sa nécessité. Est-ce que, dans cette interprétation du désir défendre, c'est de ce dont il défend, savoir d'un autre désir, nous allons pouvoir concevoir que nous sommes simplement menés, si je puis dire, tout naturellement, par ce qui mène l'obsessionnel dans un mouvement de récurrence du procès du désir engendré par cet effort implicite de subjectivation qui est déjà dans ses symptômes. Où il tend à en ressaisir les étapes. Pour autant qu'il a des symptômes. Et que, qu'est-ce que cela veut dire, la corrélation ici inscrite dans la matrice à l'empêchement, à l'émotion? C'est ce que vous désigne les titres que j'ai mis dans son redoublement, expliqué ici, au-dessous. L'empêchement dont il s'agit, quel est-il? C'est que quelque chose intervient. Empêchement, une pédicare prise au piège, qui n'est pas redoublement d'inhibition. Il a bien fallu choisir un terme. C'est que le sujet est bien empêché. De se tenir à son désir de retenir. Et que chez l'obsessionnel, c'est cela qui se manifeste comme compulsion. La dimension ici de l'émotion. Emprunté à une psychologie qui n'est pas la nôtre, psychologie adaptationnelle, réaction catastrophique, intervient ici aussi dans un tout autre sens que cette définition classique et habituelle. L'émotion dont il s'agit est celle-même que mettent en valeur les expériences fondées sur la confrontation à la tâche, à savoir que le fait que le sujet ne sache pas y répondre, c'est là. Où se rejoint notre ne pas savoir à nous. Il ne savait pas que c'était cela. Et c'est pour ça qu'au niveau du point où il ne peut pas s'empêcher, il laisse passer les choses. Qui sont ces allers et retours du signifiant qui alternativement pose et efface, et qui vont toutes sur cette voie, elles également non su, de retrouver la trace primitive. Ce que le sujet obsessionnel cherche dans ce que j'ai appelé tout à l'heure, et vous voyez pourquoi le choix de ce mot, sa récurrence dans le procès du désir, c'est bel et bien à retrouver la cause authentique de tout ce processus. Et c'est parce que cette cause n'est rien d'autre que cet objet, dernier abject et dérisoire, qu'il reste dans cette recherche en suspens. Que toujours s'y manifeste au niveau de l'acting out, ce qui va donner à cette recherche de l'objet ces temps de suspension, ces fausses routes, ces fausses pistes, ces dérivations latérales qui feront la recherche tourner indéfiniment, et qui se manifeste dans ce symptôme fondamental du doute qui va frapper pour lui la valeur de tous ces objets de substitution. Ici, ne pas pouvoir, c'est ne pas pouvoir quoi s'empêcher de la compulsion. Ici, le doute concerne justement ces objets douteux. Grâce à quoi est reculé le moment d'accès à l'objet dernier qui serait la fin. Au sens plein du terme, à savoir la perte du sujet sur le chemin. Il est toujours ouvert à entrer par la voie de l'embarras où l'introduit comme tel la question de la cause, et qui est ce par quoi il entre dans le transfert. Qu'est-ce qui doit ici nous retenir ? Est-ce que nous avons vu, saisi, même approché la question qui est celle que j'ai posée, de l'incidence d'un autre désir qui, par rapport à celui-ci dont j'ai parcouru le chemin, jouerait le rôle de défense? Manifestement, non. J'ai tracé le chemin du retour à l'objet premier avec sa corrélation d'angoisse. Car c'est là qu'est le motif du surgissement croissant de l'angoisse, et à mesure qu'une analyse obsessionnelle est poussée plus loin vers son terme, pour peu qu'elle ne soit menée que dans ce chemin, la question donc reste ouverte, si ce n'est de ce que j'ai voulu dire, car je pense que déjà vous l'avez entrevu, mais de ce que c'est que l'incidence comme défense, défense sans doute agissante et agissant fort loin pour écarter l'échéance que je viens de dessiner, comme défense d'un autre défaut. Comment cela est-il possible ? Nous ne pouvons le concevoir qu'à donner sa position centrale, ce que tout à l'heure déjà j'ai fait, au désir sexuel. Je veux dire au désir qu'on appelle génital, au désir naturel, en tant que chez l'homme est justement en fonction de cette structuration propre au désir autour du truchement d'un objet, il se pose comme ayant l'angoisse en son cœur et séparant le désir de la jouissance. Cette fonction du petit a qui, à ce niveau du désir génital, se symbolise analogiquement à la dominance, à la prégnance du petit a dans l'économie du désir, se symbolise au niveau du désir génital par le moins fini. Il apparaît ici comme le résidu subjectif au niveau de la copulation, en d'autres termes qui nous montre que la copule est partout, mais qu'elle n'unit pas manquer là justement où elle serait proprement copulatoire. C'est à ce trou central qui donne sa valeur privilégiée à l'angoisse de castration, c'est-à-dire au seul niveau où l'angoisse se produise au lieu même du manque de l'objet. C'est à ceci qu'est dû nommément chez l'obsessionnel l'entrée en jeu d'un autre désir. Cet autre désir, si je puis dire, donne son assiette à ce qu'on peut appeler la position excentrique, celle que je viens d'essayer de vous décrire, du désir de l'obsessionnel par rapport au désir génital. Car le désir de l'obsessionnel n'est pas concevable dans son instance ni dans son mécanisme. Si ce n'est parce qu'il se situe en suppléance de ce qui est impossible à suppléer ailleurs, c'est-à-dire en son lieu. Pour tout dire, l'obsessionnel, comme tout névrosé, a d'ores et déjà accédé au stade phallique et c'est par rapport à l'impossibilité de satisfaire au niveau de ce stade que son objet à lui, le petit a, excrémentiel, le petit a cause du désir de retenir, et donc si je voulais vraiment conjoindre ici la fonction avec tout ce que j'en ai dit, des relations à l'inhibition, je l'appellerais bien plutôt le bouchon. C'est par rapport à cela que cet objet va prendre ses valeurs que je pourrais appeler développées. Et c'est ici que nous perçons l'origine de ce que je pourrais appeler le fantasme analytique de l'oblativité. J'ai déjà dit et répété que c'est un fantasme d'obsessionnel. Car bien sûr, tout le monde voudrait bien que l'union génitale ce soit un don. Je me donne, tu te donnes, nous nous donnons. Malheureusement, il n'y a pas trace de don dans un acte génital copulatoire aussi réussi que vous pouvez l'imaginer. Il n'y a justement de don que là où on l'a toujours bel et bien et parfaitement repéré, au niveau anal, dans la mesure où ici quelque chose profile, se dresse de ce qui est justement à ce niveau destiné à satisfaire, à arrêter le sujet sur la réalisation de la béance du trou central qui, au niveau génital, empêche de saisir quoi que ce soit qui puisse fonctionner comme objet du don. Puisque j'ai parlé de bouchon ou quoi, vous pouvez reconnaître que c'est la forme la plus primitive de ce que j'appelais, que j'ai introduit l'autre jour auprès de vous comme l'objet exemplaire que j'ai appelé robinet dans la discussion de la fonction de la cause. Eh bien, comment pourrions-nous illustrer par rapport à ce que détermine la fonction de l'objet bouchon ou robinet avec sa conséquence, le désir de fermer? Comment pourraient se situer les différents éléments de notre matrice? Le rapport à la cause, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un robinet? Mais bon, bien le point initial où entre en jeu à l'observation dans l'expérience de l'enfant, c'est après que nous le voyons, contrairement à n'importe quel autre petit animal, manifesté pour quelque chose qui s'annonce comme représentant ce type fondamental d'objet. Le ne pas pouvoir en faire quelque chose, aussi bien que le ne pas savoir, mais dans leur distinction, s'indique ici suffisamment. Qu'est-ce qu'est le symptôme? C'est la fuite du robinet. Passage à l'acte, c'est l'ouvrir. Mais l'ouvrir sans savoir ce qu'on fait. Quelle est la caractéristique du passage à l'acte? Quelque chose se produit ou se libère une cause par des moyens qui n'ont rien à faire avec cette cause, car comme je vous l'ai fait remarquer, le robinet ne joue sa fonction de cause qu'en tant que tout ce qui peut en sortir vient d'ailleurs. C'est parce qu'il y a l'appel du génital avec son trou phallique au centre que tout ce qui peut se passer au niveau de l'anal entre en jeu parce qu'il prend son sens. Quant à l'acting out, si nous voulons le situer par rapport à la métaphore du robinet, ce n'est pas le fait d'ouvrir le robinet comme fait l'enfant sans savoir ce qu'il fait. C'est simplement de la présence ou non du jet. L'acting out, c'est le jet, c'est-à-dire ce qui se produit toujours d'un fait qui vient d'ailleurs que de la cause sur laquelle on vient d'agir. Et ceci, c'est notre expérience qui nous l'a dit. Ce n'est pas que notre intervention, disons par exemple sur le plan d'une interprétation anale, soit fausse qui provoque l'acting out. C'est que là où elle est portée, elle laisse place à quelque chose qui vient d'ailleurs. En d'autres termes, il ne faut pas tracasser inconsidérément la cause du désir. Ici, donc, s'introduit la possibilité de la fonction sur ce terrain où se joue le sort du désir de l'obsessionnel, de ses symptômes et de ses sublimations, de quelque chose qui prendra son sens d'être ce qui contourne, si je puis dire. La béance centrale du désir phallique. Ce qui se passe au niveau scopique en tant que l'image spéculaire entre en fonction analogue parce qu'elle est en position par rapport au stade phallique corrélatif. Tout ce que nous venons de dire de la fonction de petit a comme objet de don analogique destiné à retenir le sujet sur le bord du trou castratif. Tout ce que nous venons d'en dire, nous pouvons le transposer à l'image. Et ici, intervient cette ambiguïté chez le sujet obsessionnel, souligné dans toutes les observations de la fonction de l'amour. Qu'est-ce que c'est que cet amour idéalisé que nous trouvons aussi bien chez l'homme au rat que chez l'homme au loup, dans toute observation un peu poussée obsessionnelle? Quelle est l'énigme de cette fonction donnée à l'autre, à la femme en l'occasion de cet objet exalté dont on ne nous a certainement pas attendu, ni vous, ni moi, ni l'enseignement qui se donne ici, pour savoir ce qu'il représente subrepticement de négation de son désir. En tout cas, les femmes, elles, ne s'y trompent pas. Qu'est-ce qui distinguerait ce type d'amour d'un amour érotomaniaque si nous ne devions pas chercher ce que l'obsessionnel engage de lui dans l'amour? Croyez-vous que l'obsessionnel s'il en est bien ainsi du dernier objet que puisse révéler son analyse, par un certain chemin de la récurrence, je vous ai dit lequel, l'excrément, est la source divinatoire à se trouver objet aimable. Je vous prie de tâcher d'éclairer avec votre lampe de poche ce qu'il en est de la position de l'obsessionnel à cet égard. Ce n'est pas le doute ici qui prévaut. C'est qu'il préfère ne même pas y regarder. Cette prudence, vous la trouverez toujours. Et pourtant, l'amour prend pour lui ses formes d'un lien exalté. C'est parce que ce qu'il entend qu'on aime, c'est de lui une certaine image. Cette image, il la donne à l'autre, et tellement qu'il s'imagine que si cette image venait à faire défaut, l'autre ne saurait plus à quoi se raccrocher. C'est le fondement de ce que j'ai appelé ailleurs la dimension altruiste de cet amour mythique fondé sur une mythique oblativité. Mais cette image, son maintien et ce qui l'attache à toute une distance de lui-même, qui est justement ce qu'il y a de plus difficile à réduire, et ce qui a donné l'illusion à tel, bien sûr, qui avait beaucoup d'expérience de ce sujet, mais non pas à l'appareil, et pour des raisons qui resteraient à approfondir, de la formuler, de mettre tellement d'accent sur cette notion de distance. La distance dont il s'agit est cette distance du sujet à lui-même, par rapport à quoi tout ce qu'il fait n'est jamais pour lui, au dernier terme, et sans analyse, et laissé à sa solitude, que quelque chose qu'il perçoit comme un jeu, en fin de compte, n'a profité qu'à cet autre dont je parle, à cette image. Ce rapport, qui est celui que communément on met en valeur quant à la dimension narcissique où se développe tout ce qui chez l'obsessionnel est non pas central, c'est-à-dire symptomatique, mais si vous voulez comportemental ou vécu, et qui donne sa véritable assiette. Ce par quoi, ce dont il s'agit pour lui, c'est-à-dire de réaliser au moins le premier temps de ce à quoi n'est jamais permis chez lui, il n'est jamais permis pour lui de se manifester en acte, c'est-à-dire son désir. comment ce désir, ce soutien, si je puis dire, de faire le tour de toutes les possibilités qu'au niveau phallique et génital détermine l'impossible. Quand je dis que l'obsessionnel soutient son désir comme impossible, ça veut dire qu'il soutient son désir au niveau des impossibilités du désir. L'image du trou. Du trou dont il s'agit, je vous prie d'en trouver la référence. Je vous l'ai dit en son temps. C'est pour ça que j'y ai si longtemps insisté, la référence à la topologie du temps. Le cercle de l'obsessionnel est justement un de ces cercles qui, en raison de sa place topologique, ne peut jamais se réduire à un point. C'est parce que, de l'oral à l'anal, de l'anal au phallique, du phallique au scopique, scopique ou vociféré, ça ne revient jamais sur soi-même, sinon en repassant par son point de départ. C'est autour de cette structure que la prochaine fois, je donnerai la formulation conclusive à ce que cet exemple, suffisamment démonstratif à être élaboré comme exemple et transposable aussi bien à partir de ces données dans d'autres structures, l'hystérique nommément, ce qu'à partir de cet exemple, nous pouvons au dernier terme situer de la position et de la fonction de l'angoisse.